bonjour pour ce 18e numéro de Reconfinez-vous à nous. Nous avons joint par téléphone pour nous présenter l'autre marché, la boutique en ligne, Marc Richard,
bonjour.
Directeur des Écosolis.
Est-ce qu'on peut faire un point sur ce qui s'est passé, ce qui se passe au niveau des Écosolis et des Solilab pendant ces périodes de confinement?
Sur le tiers-lieu, les fonctions, elles sont au ralenti, voire fermées. Il n'y a que la partie hébergement d'entreprise qu'on a laissé ouvert pour que les gens puissent venir de temps en temps, changer d'air vis-à-vis du télétravail. Donc il y a 20-30 personnes qui sont sur site par journée.
Et les conséquences, alors, je ne sais pas si on peut faire déjà un premier bilan.
Les conséquences, elles sont réelles, à savoir que il y en a plusieurs. Il y en a déjà une qui est économique sur la coopérative qui gère ce lieu mutualisé et qui fait que, ayant eu un premier confinement fermé complètement lié à l'ensemble des fonctions pendant 2 mois, ça nous a amené à mettre 4 personnes au chômage partiel à 50% jusqu'à fin août. Pour, réduire les coûts et réduire notamment les charges personnelles liées à la baisse d'activité. On est de l'ordre, nous, de baisse d'activité sur l'année, ça va être à peu près de moins 25%.
Et au niveau des résidents?
Et au niveau des résidents, donc le deuxième effet, donc ça c'est l'effet économique, l'effet coopération, interconnaissance et puis surtout synergie de projet, c'est ça aussi où on en souffre pour toutes les structures, les 130 structures qui sont présentes ici, à savoir que le fait d'être confiné ou le fait d'être en télétravail depuis 9 mois plus ou moins alternés avec la période de congé, on voit bien qu'on a beaucoup moins d'interactions et beaucoup moins d'échanges et qui génèrent des projets, des synergies et des partages de compétences entre les différentes personnes du site ici, quoi. Donc il y a un effet économique, un effet réseau social, réseau d'entreprise sociale qui n'est plus là. Alors, on le compense un petit peu via de la communication, nous, via un fil d'actualité qui est renseigné pour garder le lien entre les 200 personnes qui travaillent ici. Et puis après, on a mis en œuvre quelques outils d'animation, notamment sur de l'entraide, notamment sur l'échange pour que les gens puissent se mettre en relation et puis aiguiller, orienter à des besoins d'entreprises ou d'entrepreneurs qui ont besoin de prendre des mesures de réduction de la voyure ou aussi de penser à des opportunités de rebond. Exemple, au printemps, sur la filière circuit court alimentaire, on a mis à disposition le lieu pour organiser un drive paysan avec les producteurs et puis un projet collectif qui s'appelle le kiosque paysan. Donc ça tournait pendant 1 mois et demi toutes les semaines, et puis là cet automne et cet hiver c'est l'événement L'Autre Marché qui devait avoir lieu et qu'on a donc du coup transformé en événement en ligne pour pouvoir maintenir une cinquantaine de commerçants en ESS localement et de maintenir ce double enjeu pour L'Autre Marché, objectif de sensibilisation et d'achat responsable pour les habitants de la métropole, et puis pour nous un événement de soutien au développement économique de nos acteurs commerçants ESS de la Loire Atlantique. Majoritairement.
Il peut y avoir deux aspects de ce confinement. Le premier, négatif, les projets sont suspendus, peut-être abandonnés.
Globalement, l'année 2020, là, on a continué, nous, nos parcours, nos offres d'accompagnement à l'innovation sociale sur les porteurs de projets individuels. On a plutôt maintenu un rythme et nos programmes. On a nos réunions mensuelles pour mettre les gens, en relation et de voir des gens qui portent des projets ou des idées. Donc, on a continué et on a lancé une promo là, le 15 septembre de porteurs d'idées, notre parcours Popcorn. Donc là, il y a 26 personnes. Voilà, c'est un peu plus même que d'habitude. Donc ça veut dire que après ce premier confinement et puis l'été, il y a aussi des gens qui ont envie de penser et voir de porter des projets autrement. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis sur le programme de lancement de nouvelles entreprises sociales qui est l'incubateur, on a une promotion qui avait démarré en décembre l'an dernier et qui a fait son chemin. Alors avec un peu de retard peut-être et un peu d'aléas, mais globalement, les gens ont maintenu leur parcours parce qu'on a voulu soutenir l'enjeu de l'accompagnement des projets. Et puis, j'allais dire, quelque part, les gens ont, pour certains, eu quasiment plus de temps disponible pour travailler leurs projets en ces périodes de confinement. Et puis enfin, des projets via nos filières soutenus dans le cadre de la feuille de route ESS, on a là des projets qu'on, une cinquantaine de projets où on a eu attention à voir où ils en étaient lancés depuis 3 ans, et là on a plutôt fait des vidéoconférences, des ateliers collectifs pour les aider à prendre les bonnes mesures au printemps et voir saisir des opportunités pour ajuster leurs projets, leurs activités au contexte dans le secteur d'activité où ils étaient. Donc ceux qui étaient plus sur des choses de solidarité, ben, de pouvoir les amplifier. D'autres qui étaient plus sur l'alimentaire, de pouvoir les réajuster via certains publics. Et puis d'autres ben, sur l'économie circulaire, j'allais dire, entre guillemets, de pouvoir ajuster, adapter. Ou sur de la consommation locale. Bon, bref, globalement, on a aujourd'hui sur les porteurs de projets peu d'effets et plutôt des effets d'entraînement. C'est plutôt, je dirais, à partir de 2021 que certaines entreprises, vont, et notamment dans le commerce, vont subir, j'allais dire, constater des pertes et des trous de trésorerie liés à l'année 2020, qui fait que certains vont être fortement impactés pour pérenniser, maintenir leur activité en 2021. Quoi. Les outils de compensation d'État, de la région, de la métropole, ont permis en 2020, il y a des engagements plutôt de soutien, de subventions annuelles, à avoir peu encore peu ou pas trop d'incidence sur les porteurs de projets ou les entreprises récentes. C'est plus des projets où il y a des financements européens ou des financements qui sont d'une année sur l'autre, où là, ben, il y a besoin d'avancer de la trésorerie et il peut y avoir quelques projets en jeunes entreprises qui ont un peu de difficultés en trésorerie. Mais bon, il y a plutôt globalement un renfort, un rapprochement entre des réseaux d'accompagnement et puis, nos réseaux du financement qui fait qu'on essaie de trouver des solutions qui vont bien pour que bah, ces jolis projets-là ils puissent perdurer.
Il y a peut-être un volet positif aussi, c'est que ça peut peut-être donner des idées, voire des projets émerger post-confinement en écho avec nos conditions de vie actuelles.
Si. Pas plus tard que cette semaine, jeudi, on a eu un parcours là d'intégration pour des nouveaux projets au sein de l'incubateur. Donc là, c'est vraiment l'aide au lancement de nouveaux projets et de futurs entrepreneurs. On a plutôt, oui, des projets qui répondent aussi aux nouveaux enjeux de société sur la consommation responsable, je pense à certains projets, sur l'insertion de circuits courts, sur le maraîchage, puis sur les filières, on a aussi des choses qui bougent, des groupements d'entreprises qui pensent aussi à pouvoir amplifier des projets. Donc oui, il y a plutôt des choses positives de ce côté-là, ou voir aussi des entreprises du territoire qui nous contactent en disant ben, « on aimerait travailler, on a une idée, on aimerait travailler une idée autour des circuits courts » et pouvoir s'associer avec aussi les réseaux de l'ESS ou autour des emballages, voilà, ça bouge plutôt bien. C'est pas pour ça que c'est facile à trouver des modèles et de pouvoir lancer des entreprises, mais je trouve que cette année 2020, très perturbée, malgré tout, génère des réflexions et génère en fait des projets d'innovation assez intéressants pour nous. Et quelque part d'espoir aussi pour des enjeux d'innovation sociale, territoriale, environnementale et prendre aussi conscience qu'on peut être porteur d'idées, entrepreneur et surtout prise de conscience de dire qu'on le fera pas tout seul, on va forcément s'associer avec d'autres. Et un écosystème comme Ecosoli, par filière, est forcément propice à mettre en relation puis de se dire, bah, mon idée, je peux peut-être la travailler à plusieurs.
Cette période est peut-être propice aussi à la réflexion et de penser nos sociétés de demain, et ça renforce peut-être aussi le projet des Ecosoli, qui maintenant est installé, mais qui peut être encore amplifié.
On a des opportunités, en effet, de pouvoir renforcer, soutenir ces dynamiques d'économie locale sur les filières qu'on a déjà évoquées, donc les filières du réemploi, de l'économie circulaire, c'est évident. Sur la filière aussi des services aux personnes, services aux familles, où là il y a encore des choses, bien sûr, autour de la santé et de la solidarité à pouvoir penser, tester, entreprendre. Et puis bah, toute cette logique aussi de services et de lieux mutualisés, on voit bien que lié à ces enjeux-là, pour pouvoir développer, accélérer des projets, et notamment par filière, bah, l'enjeu du foncier, l'enjeu de l'immobilier demain, et de pouvoir partager aussi, c'est un axe stratégique pour nous, de pouvoir travailler aussi cette partie-là qu'on avait encore. On a l'expérience du Solilab comme tiers-lieu, mais il me semble que sur le prochain mandat, les prochaines années, dans le cadre de la feuille de route, il y a un vrai axe stratégique de comment penser autrement le foncier et l'immobilier et le partager à plusieurs entreprises, que ce soit dans le commerce, dans l'artisanat ou dans les services.
Dans le projet initial du Solilab, ce lieu était destiné à être exploité, utilisé pendant un certain nombre d'années. Maintenant, il est pérennisé.
Ben, on en est à mi-chemin de l'expérimentation en grandeur nature de ce lieu et d'une réhabilitation d'une friche en lieu de service et d'activité autour de l'ESS. Quand je dis à mi-chemin, c'est qu'on a signé la coopérative qui gère le lieu. On a signé un bail à loyer avec l'aménageur de l'île de Nantes, la Samoa, pour 12 ans. Nous sommes installés ici en 2014, donc on a 6 années presque de clôturer à fin décembre, et donc on a 6 autres. Donc c'est aussi un des chantiers leviers pour nous de pouvoir penser aussi l'après, puisque c'est dans les 6 années prochaines qui viennent. L'île de Nantes va continuer à aussi s'aménager autour de nous, et donc c'est comment on intègre ça et comment on maintient une attractivité du tiers-lieu autour de tous les aménagements. Ça a déjà bougé depuis 6 ans, mais ça va encore beaucoup bouger dans les 6 années qui viennent. donc conserver une attractivité avec ce lieu qui, j'allais dire, est utilisé intensément. Donc on a aussi, nous, à renouveler et entretenir le lieu. Et puis en même temps, dessiner le Solilab de demain, un Solilab pour les années 2030, en disant quels services, quelles fonctions on pourrait encore inventer, aménager sur l'île de Nantes, voire des satellites pour répondre aussi à de nouveaux enjeux. Quand je dis satellite, c'est de pouvoir mutualiser peut-être des lieux plus en centralité de commerce entre les entreprises ou au plus en périphérie pour les besoins logistiques mutualisés. Voilà, de cette belle expérience aujourd'hui qui fait référence en France, parce que c'est quand même assez rare d'avoir lancé un lieu, cette idée-là en 2008, qui s'est concrétisée en 2014. Il y a maintenant beaucoup de projets de lieux mutualisés en France, mais celui-là était quand même dans les premiers. Donc il faut qu'on puisse capitaliser de ça pour inventer l'avenir, à la fois sur les fonctions et à la fois sur le portage immobilier du lieu avec des enjeux d'intérêt collectif et des enjeux d'intérêt commun avec les entreprises de l'USS, les porteurs de projets, mais aussi bien sûr là, les collectivités concernées.
On peut saluer les progrès de la Sémitane qui a installé une station terminus un peu plus à proximité du lieu. C'était vraiment décourageant.
Oui, oui, la ligne C5 est maintenant bien présente jusqu'au bout de l'île et puis nous avons même le Navibus qui a aussi un arrêt aussi au bout de l'île, donc qui fait partie des choses qui se sont améliorées, mais qu'on n'a pas eu, en effet, pour nous et d'autres au bout de l'île, très très facilitant pour les salariés qui travaillent sur le site en continu, et puis pour d'autres utilisant les salles de réunion ou l'espace événementiel ou le magasin de commerce. Donc oui, en effet, ça a été une contrainte pendant un peu 4 ans d'avoir un détour là avec le fret et la SNCF, c'est en train de s'arranger. Donc d'ici un an, on aura un accès direct entre le hangar à bananes et puis cette rue Saint-Domingue où le Solilab est situé.
Il y a encore un petit bout de chemin à faire.
Il y a encore un petit bout, donc ça s'améliorera progressivement avec l'évolution des aménagements et des projets immobiliers et des parcs sur l'île côté ouest. Il y a déjà d'autres projets dans le centre de l'île, donc nous, il y a pour l'instant sur cette partie-là pas d'engagement définitif d'aménagement de la partie complètement ouest de l'île.
Période de Noël s'installe proche du centre-ville de Nantes, l'autre marché.
C'est la 12e édition cette année.
Là, évidemment, personne ne va s'installer pour cause de Covid-19. Donc, on imagine une boutique virtuelle.
Étant présent sur le marché de la folie des plantes, donc l'événement des services espaces verts de la ville de Nantes début septembre, on s'est rendu compte que, voilà, on n'en était pas et loin d'être au bout de ce virus et que on s'est déjà un peu projeté au mois de décembre en se disant comment on peut compléter, en plus de l'autre marché physique, et d'avoir aussi un site de vente en ligne pour faire de la préparation de commandes et faire du retrait de commandes sur place à l'autre marché Carré-Fédot. Donc c'est mi-septembre qu'on a commencé à se dire, ce serait bien de pouvoir compléter avec de la vente sur place dans les chalets, de la commande en ligne pour pouvoir emporter. Et c'est de ça qu'on s'est rapproché d'une SCOP que sont les coursiers nantais, qui eux ont mis au printemps dernier, lors du premier confinement, une plateforme numérique de vente et de commande en ligne, auquel eux ils livraient pour les habitants nantais. Donc on s'est rapproché d'eux et de cette expérience-là, eh bien, on s'est lancé dans l'idée de pouvoir avoir cette offre-là complémentaire à l'autre marché. On pensait que c'était une offre complémentaire d'avoir sur une même plateforme les 50 ou 60 exposants EBSS de l'autre marché pour faire des achats groupés. Si j'ai dans mon panier, je peux commander à 1, 2, 3 ou 5, je fais mon panier avec les différentes boutiques virtuelles, il y en a 52 sur cette plateforme-là, et puis après, de soit retirer la commande au bain-douche, renommé Le Grand Bain, récemment investi par la coopérative Le Bois-Boîte, donc 21 Allée Québaco, pour retirer sa commande du net, ou demander une livraison chez soi, soit livrée à vélo si c'est un périmètre proche, soit livrée par la poste, avec un partenariat aussi avec la poste. Voilà comment c'est venu. Donc c'est de septembre qu'on s'est dit qu'on avait pensé que ça pouvait être complémentaire. Et puis, j'allais dire, pour nous, et pour aussi en termes d'expérience pour nous tous, c'est une première expérimentation de pouvoir se dire, et le numérique, il peut aussi servir à nos adhérents de l'ESS et conforter leur activité, parce qu'on se voyait pas ne rien faire du tout. C'est pour certains un chiffre d'affaires non négligeable sur leur année. Donc voilà. On tente l'aventure comme d'autres à faire l'autre marché uniquement en ligne avec des partenariats ressources comme les coursiers nantais.
Quand on met en avant une autre manière d'acheter en ligne locale, éthique et solidaire, il faut que ce soit local, éthique et solidaire sur toute la ligne. Et notamment, j'insisterai sur le transport et la livraison parce qu'on voit comment ça peut aussi entraîner des dérives et des exploitations d'êtres humains.
Tout à fait. Donc pour nous, c'est bien dans la continuité, dans la même philosophie des valeurs du réseau Écosolid et puis bien sûr de nos exposants, de s'associer avec un partenaire comme l'ASCOP, les coursiers nantais. Donc c'est une coopérative d'entrepreneurs que nous avons accompagnée au sein de l'entrepreneur en 2018. Donc aujourd'hui, ils sont 5 ou 6. Pour eux, c'était aussi ça, c'est de se dire comment on est autonome et non pas ubérisé lié à nos activités. Et eux sont adhérents à une fédération des coursiers à vélo en France, qui ont justement développé cette plateforme-là pour pouvoir faire de la vente en ligne, mais aussi de la préparation de commandes en étant autonome. Donc c'est aussi toute cette logique-là et d'éthique. Ça nous tenait aussi, nous, à cœur, bien sûr, de le faire avec eux pour amplifier, développer ce type de commerce-là, mais du commerce local, malgré qu'il soit digital et numérique, ça reste bien du commerce local. Tout à fait.
Et pourquoi local, d'ailleurs, si vous faites appel à un opérateur comme La Poste ?
Quand je disais local, c'était côté partenariat prestataire, c'est-à-dire que les coursiers nantais, avec leur solution de plateforme de 1, 2, 3 courses, avec leur fédération nationale, c'est bien avec une entreprise locale et bien avec des entrepreneurs locaux. Par contre, en effet, les clients peuvent être potentiellement de toute la France, à partir du moment où La Poste livre sur toute la France, bien sûr. Donc ça donne une opportunité pour l'autre marché de pouvoir se faire connaître au-delà, et c'est pour ça que notre plan de communication, il est aussi sur cette logique-là, de dire c'est bien l'autre marché en ligne avec des acteurs locaux, mais qui donne la possibilité de cette logique de vente en ligne Internet à pouvoir avoir des clients de toutes parts.
L'origine des exposants, oui, c'est en Loire-Atlantique et départements limitrophes principalement.
Oui, donc ça a toujours été depuis 12 ans, côté exposant, d'avoir vraiment une provenance très majoritaire du département de Loire-Atlantique, des départements voisins, et puis quelques coups de cœur, ou pour aussi avoir une offre sympathique et renouvelée, d'avoir aussi quelques exposants qui ont le droit d'entreprendre ailleurs.
Dans le marché traditionnel limité par la place, il y avait à la fois des gens renouvelés et des nouvelles offres. Vous avez conservé ce principe.
On a vraiment gardé cette philosophie-là de dire que les dossiers de candidature du mois de juin ont été sélectionnés par un comité au mois de nos parties prenantes au mois de juillet, et on a tenu à proposer cette offre-là à ceux qui avaient candidaté et qui s'étaient engagés au mois de juillet et à notre sélection. C'est-à-dire qu'on l'a proposé aux 60 exposants. Il y en a 52 qui ont joué le jeu. Il y en a d'autres qui nous ont interrogés et posé la question. On les a nous réorientés sur d'autres plateformes numériques nantaises, mais on a voulu garder l'engagement auprès de ceux auxquels on avait un engagement pour eux, de pouvoir les soutenir et expérimenter avec eux. Et donc ça a été beaucoup apprécié qu'on respecte aussi nos engagements vis-à-vis d'eux.
Tous les exposants avaient un site ?
Alors les exposants, il y en a beaucoup qui ont ce site internet, mais c'est pas gênant puisque on leur a proposé d'organiser un kit photo et un kit fichier qui a permis de constituer notre catalogue de produits. Chacun a fourni ses photos ou on a fait des séances deux jours là au bain-douche pour pouvoir organiser des photos des produits pour que après, avec les coursiers nantais et puis l'équipe EcoSolid, on puisse mettre en ligne sur cette plateforme tous les articles et l'ensemble des photos attachées aux articles. Donc les exposants ont donné un coup de main, c'est eux qui ont apporté tous leurs articles sur place sur deux jours, il y avait des plannings, et puis assurent eux avec nous autres à tour de rôle une permanence en fait sur le point de retrait au bain-douche pour aussi participer et contribuer à pouvoir rencontrer les clients et puis participer à l'organisation. Et ça nous a permis, avec ces 52 exposants, d'avoir une offre sur cette plateforme de plus de 1500 articles de produits. C'est presque quasiment la même offre qu'on voyait sur l'autre marché avec ces 29 chalets.
Côté rentabilité financière de cette opération pour les EcoSolid,
le modèle, en effet, il a été un peu retourné, complètement même. Pour pouvoir s'installer sur l'espace public, on a des droits de place comme tout commerçant. Donc ça, entre guillemets, on va en faire l'économie cette année. Pour pouvoir s'installer sur une place publique, il y a énormément de techniques et de régies et de locations. Ça, par contre, on va pas avoir cette année. Mais par contre, on n'a pas demandé facturation de droits de place à nos exposants, dans la mesure où c'est un projet d'expérimentation grandeur nature et on ne se voyait pas, nous, facturer un droit de place lié à une promesse de vente qui est, j'allais dire aujourd'hui, garantie sur l'autre marché physique. Là, on n'avait aucune connaissance de ce que ça allait faire. Donc, on a fait avec les moyens que nous avons réduit les charges liées à l'autre marché physique, qu'on a réinvesti pour porter ce projet-là. Donc nous, on finance la préparation de commande d'une personne qui est présente en fait pendant les 20 jours de l'autre marché sur nos fonds propres et avec nos partenaires. Et puis les coursiers nantais liés à la plateforme, eux, c'est leur système. Donc il y a une commission pour payer la plateforme. Et puis après, il y a une course à chaque panier pour ceux qui demandent une livraison à leur lieu d'habitation. Donc le système, il est relativement simple. Normalement, un système comme ça, à terme, si on veut le reproduire pour l'autre marché ou pour d'autres événements ou pour d'autres opérations, c'est de faire en sorte que le client paye sa livraison et paye la commission liée à la plateforme et la préparation de commande. Et puis, les exposants payeront demain un droit de place correspondant à le potentiel de chiffre d'affaires de vente, quoi. Donc, on est en train d'inventer un autre système de modèle économique avec le digital qui sera forcément différent que l'autre marché physique. Mais j'aimerais bien le refaire physiquement parce qu'il va manquer quand même le vin chaud et puis les relations sociales entre les gens sur place.
Vous avez grillé ma dernière question. Bah oui, le vin chaud, là, qu'est-ce qu'on fait là?
Eh bien, le vin chaud, il nous manque déjà. C'est vrai qu'on a habituellement une première journée de lancement qui est toujours le premier samedi, soit de fin novembre, soit début décembre. Ben là, en effet, il manque la petite inauguration et puis le tour de visite des exposants et puis ben, bien sûr le vin chaud. Donc ça, j'en ai pas bu pour l'instant, mais bon.
Vous n'avez pas prévu la livraison de vin chaud?
On n'a pas prévu la livraison de vin chaud, c'est juste impossible. Donc c'est vrai qu'en effet, vous avez raison, on a des exposants qui sont pas présents en ligne, qui sont la grande barge avec le bar, qui était en continu et qui fournissait les boissons, et puis bien sûr les quatre restaurateurs qui étaient prévus pour le midi et fin de journée, qui sont aussi non présents, donc il y a presque tous les exposants, mais forcément ceux auxquels c'est pas possible de vente en ligne et ceux auxquels ça peut pas se passer autrement que sur place.
Oui, et les animations aussi.
Et puis les animations, on n'a pas eu le temps, mais on pense essayer de pouvoir en faire quelques-unes pour aussi relayer de notre programme qui était tout chaud, qui était tout prêt fin octobre. Il était juste prêt, le programme, comme tous les ans, à imprimer. Et bien sûr, on l'a pas fait, malheureusement. Mais dedans le programme, il y a bien sûr, au-delà des exposants, des adhérents qui en profitent aussi pour faire la promo de leur activité à l'occasion d'ateliers ou de petits formats qui vont bien à l'occasion de l'autre marché.
Ça vous rapportait quelque chose, l'organisation de l'autre marché dans les éditions précédentes?
Non, c'est un événement pour soutenir la consommation responsable de SAS et le développement de nos membres. Donc eux, ils font, on dirait, de l'activité, c'est bien ça. L'an dernier, on était prêt avec de l'ordre de 500 000 euros de chiffre d'affaires pour l'ensemble des exposants. Nous, le but du jeu, c'est qu'on retombe sur nos pattes. Ça veut dire que les droits de place des exposants, le financement de nos partenaires, nous permettent de couvrir les charges d'exploitation de l'autre marché sur ces 20 jours d'exploitation. C'est ça l'objectif.
Merci à Marc Richard, directeur des Ecosoli, pour sa libre participation à ce 18e numéro de Reconfinez-vous à nous.
Une conclusion ouverte, qu'est-ce que vous avez envie de dire?
J'ai envie de dire deux choses. Un, ne restons surtout pas isolés en tant que personne et en tant qu'entreprise ou association. Donc, gardons les liens et faisons en sorte de les entretenir. Et puis deux, soyons inventif, créatif, innovant, c'est comme ça que le SF, nous l'aimons.
L'autre marché, la boutique en ligne des Ecosoli, c'est jusqu'au 24 décembre 2020.